Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Fais paître mes agneaux. » Il lui dit à nouveau une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » « Oui, Seigneur, lui dit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre fut peiné de ce qu'il lui eut dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui dit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Fais paître mes brebis. » en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu auras vieilli, tu étendras les mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudrais pas. » Il signifiait en parlant ainsi le genre de mort par lequel Pierre devait glorifier Dieu. Ayant dit cela, il lui dit « Suis-moi ». Se retournant, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait, celui-là même qui, durant le repas, s'était penché sur sa poitrine et avait dit « Seigneur, qui est-ce qui te livre ?» Le voyant donc, Pierre dit à Jésus « Seigneur, et lui ?» Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De tous les textes si riches qui nous ont été donnés aujourd'hui, quels sont ceux qui vous ont le plus nourri? Quelle a été finalement pour vous, dans tout ce menu qui était proposé, votre nourriture du jour? Quels ont été les versets, les chapitres qui ont porté votre méditation? Sur quoi a porté votre méditation? Sur l'une de ces deux figures, sur leur association, sur leur communion et leur fraternité, quelle a été ensuite, juste avant ces quelques mots de conférence, votre prière de réponse, et puis comment vous préparez à cette dernière étape, à l'accomplissement de ce parcours, qui est la prière de contemplation, ce temps de contemplation que vous allez prendre tout à l'heure dans le temps de prière silencieuse. En ce jour, nous méditons sur deux figures qui vont ensemble à la suite du Christ et à la rencontre du Christ ressuscité. Ces deux figures qui évoquent ce compagnonnage, cette charité fraternelle que je vous ai rappelé ce matin. Peut-être pouvez-vous prier pour ceux avec qui vous cheminez, pour ceux qui vous ont aidé à cheminer jusque-là. Peut-être aussi à prier pour les autres participants de cette retraite. En tout cas, pour ma part, je demande cet après-midi à l'Esprit-Saint de veiller sur chacun des retraitants que vous êtes, sur votre disponibilité à l'accueil de la parole et sur votre capacité à entrer dans le rythme qui vous est proposé. Au terme de cette journée, je pense et j'espère que vous aurez pris l'habitude du rythme de cette retraite et que vous commencez à percevoir l'intérêt qu'il peut y avoir à accorder de l'importance à chacune des étapes de cette pédagogie de la Lectio Divina. La tradition chrétienne, représentée en particulier par un moine qui s'appelle Guigues le Chartreux, a voulu mettre en valeur ce cheminement de la parole depuis la lecture jusqu'à l'accomplissement, de ce temps nécessaire au travail, au déploiement de la parole dans sa puissance de vie en nos cœurs et la nécessité de passer par ces quatre étapes qui sont comme quatre échelons. L'image d'une échelle sainte vient de Guigues le Chartreux. Il dit que c'est une échelle qui fait le lien entre la terre et le ciel, une échelle, précise-t-il, qui a peu de barreaux, d'étapes, d'échelons, mais que ces étapes sont essentielles, que ces échelons sont essentiels et qu'il faut passer par chacun de ces quatre échelons à chaque fois que nous accueillons la parole pour gravir cette échelle et pour que de la terre nous puissions être en communion avec le ciel. Quatre échelons essentiels, d'abord prendre le temps de lire, d'écouter, d'accueillir. Cette première étape, je vous le rappelle, est une étape qui nécessite une certaine passivité de notre part, alors que nous avons envie toujours d'être dans une maîtrise, y compris concernant la prière, alors que nous avons toujours spontanément envie de commencer à prier en prenant la parole pour s'adresser à Dieu, en attendant alors que le Seigneur nous réponde, eh bien, la pédagogie de la Lectio Divina nous invite à ce chemin inverse, à cette logique inverse, à ce décentrement. La prière commence non pas en prenant la parole vers Dieu, mais en accueillant la parole que Dieu nous donne, en nous mettant à l'écoute avec cette qualité d'attention, cette qualité d'accueil que nous apprenons à vivre précisément durant la première étape d'une journée de Lectio Divina, celle du soir, lorsque nous prenons le temps de lire chacun des textes, et vous vous rendez compte qu'il y a un certain nombre de textes à lire, et que cela prend du temps, et qu'il est important que vous y passiez du temps. Le deuxième échelon s'appuie sur le premier, c'est bien à partir de ce que la lecture a proposé à notre esprit et à notre cœur, que dans une seconde étape, dans un second temps, nous pouvons passer à la méditation qui consiste à creuser le sens, à accueillir le message que la parole nous propose. Avec, je vous le rappelle encore une fois, ces deux questions majeures. Qu'est-ce que cette parole que je reçois me dit du cœur de celui qui me parle? Comment celui qui me donne sa parole veut me dire ce qu'est son cœur, ce qu'il porte et ce qu'il veut pour moi? Et ensuite, voir comment cette parole peut éclairer mon existence. Cette seconde étape, ce second échelon de la méditation est une étape, vous l'avez compris, beaucoup plus active, qui sollicite toutes nos facultés, à vrai dire, pas nos seules facultés intellectuelles. Il ne faudrait pas croire que la méditation serait une simple étude intellectuelle qui nécessiterait des compétences particulières ou une capacité de réflexion hors du commun. La méditation, c'est plutôt le fait de mettre en lien la parole de Dieu avec tout ce qui fait notre existence, tout ce qui est aussi dans notre mémoire, tout ce qui fait partie de notre expérience. Et c'est tout cela qui peut nous permettre de creuser ce message et de découvrir comment le Seigneur, aujourd'hui, à la fois nous dit qui il est et en même temps éclaire la route de notre existence. Alors il ne s'agit pas bien évidemment de s'arrêter sur chacun des textes qui sont proposés, ils sont trop nombreux et trop abondants. Il faut plutôt voir l'ensemble de ces textes un petit peu comme un clavier proposant tout un tas de touches, de notes, pour que à partir de ces touches, nous puissions composer la mélodie qui est celle qui nous est proposée aujourd'hui. Et c'est cela notre méditation, pouvoir réaliser à partir de ces différents textes une unique mélodie, peut-être faire le lien aussi entre ce clavier de la parole de Dieu et puis le clavier de notre expérience, le clavier des questions que nous nous posons, le clavier de notre existence et de ce que nous avons déjà reçu. Ce qui a été développé dans la méditation peut progressivement se transformer en prière de réponse. Si la méditation nous a conduit à une réflexion sur notre conversion, la prière de réponse peut être une demande de pardon. Si nous avons médité sur la manière dont le Seigneur veut s'adresser à nous et nous appelle à le suivre, la prière de réponse peut être une réponse à son appel. Ça peut être aussi une prière de louange, de supplication, d'action de grâce. Nous pouvons, je vous l'avais déjà dit et je le rappelle, nous appuyer sur toute la gamme des expressions de tout ce que nous portons, tels que les psaumes les déploient. Enfin, la contemplation est l'aboutissement de tout ce parcours pour nous faire faire l'expérience de celui qui est présent, je vous le rappelle. Alors, pour entrer dans ce temps de contemplation, qui est ce qui nous reste à vivre d'ailleurs pour cet après-midi, dans cette dernière partie de cette journée de Lectio Divina, pour entrer dans la contemplation, il y a, avec tous les textes que nous avons reçus, plusieurs manières de pouvoir nous préparer à cette dernière étape. Et c'est d'ailleurs ainsi que je voudrais méditer avec vous quelques aspects des textes de ce jour. Tout d'abord, nous pouvons donner de l'importance au témoignage porté par le disciple bien-aimé, celui qui est au pied de la croix et qui, du pied de la croix, contemple Jésus au moment où il se donne totalement. Et c'est peut-être ainsi que nous pouvons entrer dans ce temps de contemplation en désirant contempler celui qui est en train de se donner complètement pour nous, celui qui manifeste le plus pleinement son amour comme il l'a manifesté sur la croix et comme le côté transpercé en est en quelque sorte le signe. Et puisque à la croix, Jésus a donné Marie pour mère au disciple bien-aimé et a donné le disciple bien-aimé comme fils à Marie, peut-être aussi pouvons-nous, cet après-midi, demander à la Vierge Marie, notre mère, qu'elle nous aide à être ses disciples qui se laissons aimer. Et comment mieux se laisser aimer par le Christ que de le faire dans ce temps de contemplation où nous arrivons en présence du Christ et où nous nous laissons aimer par lui dans cet amour gratuit qui ne cesse de nous manifester. Nous pouvons aussi, en nous appuyant sur la figure de Simon-Pierre, et c'est la seconde réflexion de cette conférence, nous appuyer sur la question que Jésus pose à Pierre après sa résurrection, m'aimes-tu ? Peut-être pouvons-nous entrer dans le temps de contemplation en écoutant, en laissant le Christ nous poser à nous-mêmes cette question, m'aimes-tu ? Et je voudrais méditer quelques instants sur ce grand dialogue du chapitre 21 de l'Évangile selon saint Jean. Pour vous rappeler tout d'abord que même si ce dialogue a lieu entre Jésus et Simon-Pierre, le disciple bien-aimé n'est pas loin, il est présent au début du chapitre 21, il sera mentionné juste après encore ce dialogue. Nous voyons bien toujours ces liens entre ces deux disciples, et cela nous rappelle, et ce n'est probablement pas inutile, que nous ne sommes jamais isolés dans notre rencontre avec le Seigneur, que même s'il y a bien une rencontre personnelle, il y a toujours aussi cette dimension communautaire, et que nous rencontrons toujours le Seigneur aussi avec les autres et les uns par les autres. Ensuite, dans ce grand dialogue, ce qui est remarquable, c'est que, évidemment, le triple « m'aimes-tu », j'y reviendrai encore dans quelques instants, peut renvoyer au triple reniement de Pierre. Ce qui est remarquable, donc, dans ce dialogue, c'est que Jésus, qui a le projet depuis le début de confier son troupeau, l'Église, à Pierre, ne renonce pas à ce projet, ne renonce pas à cette mission qu'il veut confier à Simon-Pierre, parce que Simon-Pierre a fléchi, a flanché et a renié le Christ dans sa passion. Mais c'est Jésus lui-même qui va permettre à Pierre de revenir, qui va permettre à Simon-Pierre que sa faiblesse soit remplacée par un amour d'une qualité nouvelle, pour que enfin il soit capable de remplir la mission que le Seigneur a prévue pour lui, dont il a voulu le charger et à laquelle il ne renonce jamais. Enfin, ce dialogue est scandé par une triple question posée par Jésus à Simon-Pierre, « M'aimes-tu ? » En réalité, dans les trois questions, Jésus n'utilise pas trois fois le même verbe « aimer ». Il y a deux verbes différents utilisés dans ce dialogue. La première fois, lorsque Jésus demande « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Le verbe utilisé est celui de la charité, de cet amour divin, du don total de soi. Et l'apôtre Pierre répond alors par un autre verbe « aimer » qui est celui de l'amitié. Il répond en invoquant cette amitié humaine, son attachement au Christ, on pourrait dire cette générosité dont il se sait capable. On pourrait traduire ainsi « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu de cet amour de charité ?» Et Pierre répond « Oui, Seigneur, tu sais que je te suis attaché. » Et il faut voir dans cette différence de verbe la conscience que Pierre a de la limite de son amour. Il sait pertinemment qu'il ne peut pas encore par lui-même aimer comme Jésus l'a aimé. Et enfin, il est capable de reconnaître cela. À la seconde question, le dialogue est exactement le même. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu de cet amour de charité ?» Et Pierre répond « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime de cet attachement que j'ai pour toi. Et à la troisième question posée par Jésus, Jésus lui-même change le verbe qu'il utilise. Jésus reprend le verbe employé par Pierre. « Simon, fils de Jean, es-tu attaché à moi ?» Et nous comprenons bien comment Pierre peut être peiné de ce qui lui dit pour la troisième fois « Es-tu attaché à moi ?» Et Pierre répond « Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je suis attaché à toi. » Et Benoît XVI a un magnifique commentaire sur l'évolution de ces verbes « aimer » dans ce dialogue entre Jésus et Pierre. C'est Jésus qui s'est adapté à Pierre plutôt que Pierre à Jésus. Et c'est précisément cette adaptation divine qui donne de l'espérance aux disciples qui a connu la souffrance de l'infidélité. C'est de là que naît la confiance qui le rendra capable de suivre le Christ jusqu'à la fin. À partir de ce jour, Pierre a suivi le Maître, clairement conscient de sa propre fragilité, mais cette conscience ne l'a pas découragé. Il savait en effet qu'il pouvait compter sur la présence du ressuscité à ses côtés. Pierre est arrivé à mettre sa confiance en ce Jésus qui s'est adapté à sa pauvre capacité d'amour. Et il nous montre ainsi le chemin à nous aussi, malgré toute notre faiblesse. Que ce soit donc le disciple bien-aimé qui a reconnu à quel point il était aimé de cet amour de charité. Que ce soit Pierre qui a aussi reconnu à quel point le Christ l'avait aimé de cet amour de charité, même si lui-même n'a conscience que de ses pauvres capacités personnelles. C'est à partir de ces deux témoins et de leur communion que nous pouvons nous aussi accueillir la présence de celui qui nous a aimés et qui a manifesté cette charité au cœur même de la pauvreté de nos capacités pour que nous puissions, à son école et progressivement, nous laisser façonner à son image. Entrons maintenant dans ce temps de contemplation avec la pauvreté de notre amour pour recevoir dans notre cœur la puissance même de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ qui a tout donné pour nous.